Chapitre 5. Monnier à Hyères. Il faisait jour. À moitié réveillé et complètement paniqué par le ton de l'accueil, je sortis la tête de mon duvet et, ébloui par la vive clarté du matin, j'aperçus un homme, ou plutôt une sorte de marin mal dégrossi, hirsute et barbu, qui s'éloignait à grands pas. Je me levai sans traîner, j'enfilai mes chaussures. Je ne peux pas dire que je m'habillais, puisque j'avais dormi tout habillé. Je secouai mon duvet pour en faire tomber la sciure et je le fourrai dans mon sac. Au moment où j'allais partir, l'homme réapparut à la porte du hangar et, sur le même ton qu'il avait pris pour me faire déguerpir, il me lança « Hé, venez boire le jus avant de partir !» Je n'hésitai pas longtemps, tant qu'à partir, autant que ce soit avec quelque chose dans le ventre. Prenant mon sac à dos, j'entrai donc dans le hangar par la grande porte, où mon hôte venait de disparaître. Ici, il y avait de la sciure et du bois partout. Trois bateaux en bois étaient posés sur de gros tréteaux. Il y avait une sorte de bateau de course à moteur qui paraissait flambant neuf, un peu plus loin un petit chalutier en triste état et à moitié démonté, enfin, au fond, le squelette d'un bateau tout neuf qui prenait forme. En face de ces trois bateaux, des morceaux de bois partout, des établis, des grosses machines à bois, et au milieu de tout ce bric-à-brac, un vieux tracteur tout rouillé. Je fis ainsi des yeux le tour du hangar, mais je ne vis pas mon bonhomme. Hé, par ici ! Derrière le tracteur se trouvait une sorte de cabane que je n'avais pas repérée, c'était le bureau. Enfin, c'est ce qui était marqué sur la porte, parce que je n'avais pas souvent vu des bureaux comme ça. Des papiers, il y en avait partout. Mais je ne voyais pas bien comment il était possible d'en trouver un en cas de besoin. La pagaille tenait lieu de principe de rangement. Une fenêtre au carreau poussiéreux éclairait la pièce, qui était meublée d'une grande table couverte de plans et de papiers, d'une armoire métallique grande ouverte qui servait à mettre des outils, des boîtes en carton de toute taille et des packs de bière. À côté, un petit frigo supportait la cafetière qui gloutait, et au fond de la pièce, on devinait une sorte de canapé-lit usagé, recouvert de vêtements usagés et de ciré. Au mur étaient épinglés des plans de bateau. Il y avait un téléphone mural, mais pas de fax, pas d'ordinateur, pas même une pendule. Repoussant du coude quelques papiers, l'homme posa sur la table, à côté d'un pain qui y était déjà, deux verres à l'aspect douteux et une boîte de sucre. Il prit dans l'armoire un gros pot de confiture entamé, avec la cuillère qui était restée plantée dedans. Il me fit signe de m'asseoir et s'empara lui-même d'une chaise en face de moi. Pendant que je sirotais le café que j'avais trop sucré et que je dévorais plusieurs tartines recouvertes d'une excellente confiture d'abricot, j'observais mon hôte. Il devait être assez jeune, finalement, 20-25 ans au maximum. Il avait les yeux bleus, les cheveux noirs trop longs et en bataille. Une barbe en friche lui mangeait le visage. À part son air renfrogné, il avait un assez beau visage, un corps d'athlète grand et carré. Je voyais ses muscles saillir sous son t-shirt. Il n'était pas causant, nous n'avions encore échangé aucune parole, mais je ne pus m'empêcher d'éprouver de la sympathie pour cet ours mal léché qui cachait sûrement un grand cœur sous son air de rustre. Nous déjeunâmes ainsi en silence, face à face. Ne sachant pas ce qui allait m'arriver dans la journée, je cherchais à me remplir le ventre le plus possible. Quand je fus repu, j'essayai d'engager la conversation. « C'est beau cet atelier, tout ce bois. C'est vous qui construisez ces bateaux ?»« Ouais. Allez, il faut que je m'y mette. Bonne journée. » Et sans plus de façon, il sortit à grands pas et disparut dans l'atelier. Je me levai, voulus rincer les verres, mais je ne trouvais aucun point d'eau. Tant pis. Je pris mon sac, ne voyant personne dans l'atelier, je criai « Merci pour le petit déjeuner !» Il n'y eut pas de réponse, je sortis. Le soleil montait dans le ciel, promettant une superbe journée. La mer était toute bleue, sans doute un peu trop fraîche pour se baigner. J'avais bien dormi et j'avais l'estomac calé, au moins pour la matinée. Cela faisait beaucoup de bonnes choses. Je résolus de prendre la vie du bon côté et de m'occuper du but de mon voyage, retrouver la trace d'Antoine Monnier. La seule piste exploitable était toujours la liste des six adresses Monnier dans la ville de Hyères. armé de cette liste, d'un plan de la ville qu'il allait falloir acheter, de la photo et de la clé trouvées dans les affaires d'Antoine, je me fixai comme objectif de visiter ces 6 adresses avant le soir. Je commençai par le centre-ville. C'était le plus facile, au moins pour les déplacements. D'après l'annuaire électronique, aucun Antoine n'était associé au nom de Monnier. Mais je savais que, par exemple, chez nous, dans l'annuaire, c'était le prénom de maman qui apparaissait, simplement parce que c'est elle qui avait fait les démarches pour obtenir la ligne. Je ne me fiais donc pas trop aux prénoms indiqués sur l'annuaire. La première adresse correspondait à un immeuble. L'entrée de cet immeuble était protégée par une porte fermée à clé et par un interphone. Il y avait bien un Monnier sur l'un des boutons d'appel, mais aucun prénom n'était précisé. Que fallait-il faire ? Attendre que le facteur ou un locataire entre pour accéder aux boîtes aux lettres et espérer qu'un prénom serait indiqué ? J'attendis un quart d'heure sans que personne ne cherche à entrer ou à sortir. Il me fallait avancer, je sonnai. Une voix de femme me répondit. « Oui ? Bonjour, je cherche Antoine Monnier. Est-ce bien ici ?» J'entendis un rire amusé. « Non, moi c'est Antonia. »« Alors désolée, madame, c'est un monsieur que je cherche. »« Il n'y a pas de mal. »« Au fait, Antoine Monnier, ça ne vous dit rien ?»« Non, rien du tout. »« Ça ne fait rien, merci. Bonne journée, madame. » La deuxième adresse n'était pas très loin de la première, un immeuble lui aussi, mais ancien celui-là, verrouillé de la même façon. Cette fois, il y avait l'initiale d'un prénom sur l'interphone, C. Monnier. Ce pouvait être le nom de sa femme ou l'appartement de ses parents. Je sonnai. Rien. J'essayai plusieurs fois sans résultat. J'allais m'éloigner quand une vieille dame, tirant un caddie de marché, s'approcha, sortit sa clé et ouvrit la porte. Elle me regarda d'un drôle d'air. J'en profitai pour l'aborder. « Bonjour, madame. Je cherche un monsieur Antoine Monnier. Comme je vois un Monnier sur l'interphone, je me dis qu'il habite peut-être ici. »« Ah non, ma petite, c'est une dame qui habite ici. » Prestement, je sortis la photo de ma poche et la lui montrai. « Ne serait-ce pas cette dame ?»« Non, non, pas du tout. »« Bon, merci quand même. Bonne journée. » La vieille dame entra en me regardant encore plus bizarrement. Elle vérifia que la porte se soit bien verrouillée derrière elle. J'avais encore fait fausse route. Mais peut-être, sans le vouloir, étais-je allé sonner chez des personnes de la famille d'Antoine. Il aurait fallu pouvoir les interroger. Il restait donc un doute, une piste non aboutie, qui pourrait être reprise plus tard. Je sortis un petit carnet de ma poche et pris quelques notes. Mon enquête devait s'appuyer sur des certitudes et non sur de vagues souvenirs. Pour chaque adresse visitée, je notai les réponses à mes questions, puis je fis une case « Certitude » et une case « Suppositions à vérifier ». Pour la deuxième adresse, je notai « Femme seule » dans les certitudes et « Pourrait être de la famille » dans les suppositions. Je repris mon chemin. J'étais très encombré de mon sac à dos, mais je ne voyais vraiment pas où j'aurais pu le déposer. De plus, je suis sûre que cela ne faisait pas très sérieux pour mon enquête. En effet, on ne se méfie pas trop en général d'une jeune fille soignée qui pose des questions. Mais avec un sac à dos, ça fait tout de suite touriste, voire mendiante, sans domicile fixe en tout cas. Comme je n'avais pas d'autre alternative, je continuais à me le coltiner d'un bout de la ville à l'autre. La troisième adresse était un peu écartée du centre. C'était une maison de ville. La façade était un peu en retrait de la rue, avec un jardinet devant. Une grille en fer forgé en défendait l'entrée. Une plaque de marbre gravée indiquait « A. Monnier ». Je repérai que cette grille devait s'ouvrir avec une clé beaucoup plus grosse que celle que je possédais. Je n'essayai même pas. Il y avait un bouton de sonnette, je sonnai. Un septuagénaire ouvrit la porte de la maison et sortit sur le perron. De cette place, il m'interpella. « Qu'est-ce qu'il y a pour votre service, jeune fille ?»« Bonjour, monsieur. Je cherche Antoine Monnier. » L'homme se décida alors à venir vers la grille tout en me répondant « Mais vous l'avez devant vous. À qui ai-je l'honneur ?»« Excusez-moi, mais l'Antoine Monnier que je cherche, je le connais et ce n'est pas vous. Vous ne vous connaissez pas d'homonyme ? Ah non, désolé, je ne me connais ni homonyme ni sosie. Ce n'est pas grave, désolé de vous avoir dérangé. Les adresses 4 et 5 se trouvaient dans une même rue. Mais cette rue était loin du centre, dans un ensemble d'immeubles HLM. En fait, je me rendis compte sur place que les deux numéros correspondaient à deux tours s'élevant côte à côte. Je me dis que si Antoine était le patron d'une affaire, il avait certainement trouvé à se loger dans un cadre plus agréable. Mais peut-être avait-il fait faillite et avait-il été réduit à prendre un appartement HLM, puis la situation empirant, à partir sur la route. Mais tout cela n'était que supposition. Après m'être repéré sur les boîtes aux lettres, je montai au quatrième étage par l'escalier. Il n'y avait ni interphone ni ascenseur, toujours avec mon sac sur le dos. En arrivant sur le palier, je vis quatre portes, mais aucun nom sur les portes. Je restai là, un peu bête, quand la tête d'une femme apparut dans l'entrebâillement d'une porte. « Bonjour, je cherche Antoine Monnier. C'est bien ici ?»« Monnier ? Oui, c'est là, en face. » Je remerciai, m'approchai de la porte qui m'intéressait, jetai un coup d'œil à la serrure, vérifiai qu'elle ne pouvait pas correspondre à ma clé et sonnai. Je n'eus pas de réponse. Après avoir fait plusieurs tentatives, je fis demi-tour et revins frapper à la porte de la femme qui venait de me renseigner. « Oui, mademoiselle ?» me demanda-t-elle avec un fort accent étranger quand elle m'eut ouvert. « Il n'y a personne. » Je lui montrai la photo. « Est-ce que c'est cette dame qui habite ici ?»« Oh non, mademoiselle, c'est des jeunes. Ils travaillent tous les deux, ils ne sont jamais là dans la journée. » « Ça ne fait rien, tant pis, je repasserai peut-être. Merci, bonne journée. » Dans l'immeuble d'à côté, je cherchais ma cinquième adresse. C'était au second étage. Il y avait le nom sur la porte, P. Monnier, mais je ne trouvais personne. Personne chez les Monnier, personne sur le palier pour me renseigner, personne dans l'escalier ni dans le hall. Je pensais que c'était un immeuble rempli de gens qui devaient travailler du matin au soir. Il me faudrait revenir en soirée. Midi était déjà passé depuis longtemps, mon estomac commençait à gargouiller. Il fallait que je retraverse la ville. Ma sixième adresse était perdue dans les hauteurs, un quartier chic sûrement. En repassant dans le centre, je m'achetai un bout de pain. Il ne restait plus grand-chose dans mon porte-monnaie, mais il fallait bien que je mange au risque de tomber en panne sèche. Je commençai à en avoir plein les pattes et plein les épaules, car j'avais toujours mon sac sur le dos. Enfin, je finis par arriver 118 montée des Cigales. C'était une belle maison récente, dans un lotissement pour familles aisées. Là aussi, il y avait une grille et un interphone. Je pense même que c'était un système à caméra. Du coup, je n'osais pas essayer ma clé dans la serrure, bien qu'elle aurait pu correspondre. Je sonnai tout de même. Une voix à l'accent portugais me répondit dans l'interphone. J'essayai de faire en sorte que la bonne sorte pour me parler face à face. « C'est à propos de M. Monnier. Est-ce que je pourrais vous parler 2 minutes ?»« Oui, possible, venir. » Et je vis apparaître une petite bonne femme, habillée en femme de ménage, avec tablier et fichu sur la tête, qui trottina jusqu'à moi. « Bonjour, mademoiselle. Excusez-moi. « Madame veut pas jouer à étranger. » Je ne pus m'empêcher de sourire en me demandant qui de nous deux était étranger. « Je cherche M. Antoine Monnier. » Je lui tendis la photo à travers la grille. Elle fit la moue. « Ça, pas monsieur, dame, pas madame et pas connaître. » Je compris fort bien, la remercier et m'en aller, le moral au plus bas. Je commençais à fatiguer sérieusement des pieds, des jambes et des épaules. Je n'avais plus qu'un petit bout de pain à manger et je n'avais aucune idée où j'allais pouvoir dormir. Mais le pire, c'est que j'avais tiré mes 6 cartouches sans toucher la cible. Aucune des 6 adresses que j'avais visitées ne m'avait donné le moindre renseignement intéressant. Je ne savais plus quoi faire. Je commençais à penser sérieusement à rentrer à la maison. Je pourrais appeler les parents. J'avais toujours sur moi mon billet retour. Il devait être possible de faire changer la date. Tant pis pour Thibault, il se ferait engueuler, mais il aurait cherché aussi. Je ne voyais plus que cette solution. Ici, sans argent, sans connaissance, je ne pouvais espérer vivre les 6 jours qui me restaient avant la date de retour prévue. Me retrouver clocharde à 17 ans, même à titre temporaire, ne m'enchantait nullement. Je considérais ma décision comme prise et je cherchais le plus court chemin pour rejoindre la gare. Pour appeler les parents, je n'avais pas de téléphone portable, mais à la gare, je trouverais bien une cabine. J'arrivais à la gare 1 quart d'heure avant l'heure de fermeture affichée. Il était temps, pensais-je. Mais en fait, il n'était plus temps. Juste devant mon nez, l'employé vint verrouiller la porte. Comme je protestais, il me montra à travers la vitre le groupe de personnes qui attendaient au guichet, puis il tapota sa montre. Pensant avoir été suffisamment explicite, il repartit s'occuper des élus qui avaient eu la chance d'entrer avant l'heure officieuse de fermeture. J'étais écœuré, mais que pouvais-je faire sinon trouver un endroit pour dormir et revenir me présenter le lendemain matin? Un endroit pour dormir? Je posai mon sac et m'assis sur un banc pour réfléchir. La seule idée qui me vint à l'esprit fut de retourner m'installer dans la sciure entre les piles de planches du petit chantier naval, là où j'avais dormi la nuit dernière. C'était tranquille. Je risquais juste de me faire virer par l'ours qui m'avait réveillé ce matin. Il était un peu bourru, mais il n'avait pas l'air trop méchant. J'avais plusieurs kilomètres à faire, et il ne fallait pas traîner si je voulais arriver avant la nuit. Tout le long du chemin, je me soutins le moral en pensant au bien-être que j'éprouverais à poser ce fichu sac qui me sciait les épaules, à enlever ces chaussures qui me serraient les pieds et à m'allonger sans plus penser à rien. J'eus une surprise à l'arrivée alors que la nuit tombait. Le hangar laissait filtrer de la lumière à travers ses planches disjointes. Il y avait donc encore quelqu'un? Je m'approchai de l'entrée, mais n'entendis rien. Après quelques secondes d'indécision, je poussai la porte et entrai. C'était un coup de poker. Soit l'ours allait me chasser et je ne saurais plus où aller dormir, soit il aurait pitié de moi et il me permettrait de m'installer dans un coin de l'atelier. J'aurais pu me cacher sans rien dire et sans me faire remarquer, mais j'aimais les situations claires et je pensais que j'avais plus de chance à jouer franc jeu. De grosses lampes au plafond projetaient une lumière crue au centre de l'atelier, la périphérie restait dans l'ombre. Je perçus une sorte de grattement plus ou moins régulier. Je pensais à un rat. Autant j'avais ouvert la porte avec discrétion, autant je la claquais fort pour faire du bruit et indiquer ma présence. Aussitôt, une tête apparut au-dessus du canot à moteur rutilant qui m'avait paru neuf ce matin. « Ah, c'est vous ?» dit la tête qui était bien la même que ce matin, avec une bonne couche de poussière blanche par-dessus. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Je me rendis bien compte que je le dérangeais et qu'il allait m'envoyer promener. Mais j'eus l'intuition de ce qu'il fallait dire. « Je peux vous aider ?» Il me regarda d'un air ahuri. « Vous voulez m'aider ?»« Oui, pourquoi pas ?» Plutôt surpris, il me dévisagea. « C'est salissant, vous savez ?»« Aucune importance. » Je compris qu'à 7 minutes, j'étais en train de gagner mon gîte pour les jours à venir. Si je lui donnais un coup de main, il ne pourrait plus refuser que je campe dans un coin de son atelier. Je pourrais y laisser mon sac et continuer mon enquête avec le dos et l'esprit allégés. De toute façon, j'avais sur le dos le t-shirt dans lequel j'avais transpiré toute la journée. Le dos collé sur mon sac était trempé et je portais un Bermuda en jean qui ne craignait pas grand-chose. « Tu vois, me dit-il, tiens, il était passé au-dessus. Ce vieux canot en contreplaqué est à un riche Parisien qui l'a acheté en très mauvais état et qui nous l'a laissé tout l'hiver pour le remettre à neuf. Il devait venir le récupérer la semaine prochaine. Mais ce matin, il a téléphoné pour dire qu'il était trop impatient et qu'il viendrait le prendre demain en fin de matinée. Heureusement, tout est fini, ou presque. Il ne reste qu'une couche de vernis à passer sur le pont, mais ça va me prendre toute la soirée. Avant de passer le vernis, il faut égrener la couche précédente. Passe ta main ici, tu sens les aspérités? Caresse le bois là où je suis passé. C'est tout lisse. Alors si tu veux vraiment m'aider, fais comme moi, Tu prends une poignée de laine d'acier très fine et tu passes là délicatement. Il ne s'agit pas d'enlever la couche précédente. Tu fais glisser ton autre main pour contrôler que tu n'as rien oublié et que tout est bien lisse. Vas-y, commence doucement dans ce coin. N'essaie pas d'aller aussi vite que moi, mais ce que tu fais, fais-le bien, que je n'ai pas à y revenir. » Je commençai donc à égrener le pont de ce bateau. Qu'est-ce qu'il y avait comme recoin ? Mon patron, ou plus exactement mon maître d'apprentissage, comment le nommer autrement, vint plusieurs fois vérifier mon travail. Il corrigea mes gestes et même me félicita. « Tu ne te débrouilles pas trop mal pour une Parisienne. »«
Je ne suis pas Parisienne. »«
Mais tu n'es pas d'ici. Pour nous, tous ceux qui ne sont pas du coin sont des Parisiens. » Mais il ne chercha pas à savoir d'où je venais réellement. Au bout d'un moment, je lui demandai.
« J'ai pas mal marché aujourd'hui et j'ai mal aux pieds. Ça ne dérange pas si j'enlève mes chaussures ?»«
Fais comme tu veux. Fais juste gaffe s'il y a des rivets, des outils ou des bouts de ferraille qui traînent. »
Il nous fallut bien une heure pour tout fignoler.
« Il me reste la couche de vernis à passer, dit-il. Mais ça ira vite et je le ferai tout seul. Tu cherches où dormir, c'est ça ?»«
Oui, c'est ça. » »«
Tu peux dormir sur le canapé dans le bureau. » Pose par terre tout ce qui traîne dessus. J'y ai déjà dormi, c'est bien. Les WC, c'est la cabane dehors, en sortant à droite. C'est un peu rustique, mais bon. Pour ce que c'est faire... Et pour l'eau, il y a juste ce robinet sur l'évier derrière toi. Mais attention, dès que j'aurai commencé le vernis, plus un pas dans l'atelier. Pas question de faire voler la poussière qui irait se coller dessus. Ça veut dire interdiction de sortir du bureau pendant au moins 4 heures. « Prends tes précautions. »«
D'accord, pas de problème. Mais toi, tu ne dors pas là ?»«
Non, je rentre. Ma copine va encore râler. » Je posai mon sac dans le bureau, fis un tour rapide dans la cabane des WC sans lumière, puis je m'enfermai dans le bureau. Ayant débarrassé le canapé, je m'y étendis encore pleine de poussière et m'endormis instantanément. Je ne sus même pas à quelle heure mon sauveur avait fini son vernis et était parti. Je me réveillai en entendant « Hé, il fait jour, j'ai apporté de quoi déjeuner. Si tu veux toujours m'aider, on a du pain sur la planche. » Je sortis la tête de mon duvet. Effectivement, il faisait jour, mais tout juste. Quand donc dormait-il, ce gars-là ?
« Je ne m'appelle pas Hé, mais Emmanuel. »
« Eh bien, à table, Emmanuel !» Il chargea la cafetière et la mit en marche. Puis il s'assit et commença à se faire des tartines sans plus s'occuper de moi. Heureusement, j'avais dormi en sous-vêtements et je fus vite habillée, mais à aucun moment il ne tourna la tête vers moi. M'emparant de la cafetière, je servis le café dans les 2 verres qui n'avaient pas bougé depuis la veille. Je me préparai quelques belles tartines car j'avais un dîner de retard à rattraper.
« Que faisons-nous aujourd'hui, chef ?»
Il sourit, amusé. « Je ne suis pas chef, je m'appelle Stéphane. Steph pour les gens pressés. » Je crus comprendre qu'il n'appréciait que médiocrement son surnom et je me promis de faire l'effort d'utiliser son prénom en entier. « Si tu veux bien m'aider, nous allons mettre à l'eau le canot pour que le Parisien soit content et puisse partir tout de suite avec. C'est une manœuvre un peu délicate. » Ce n'est pas un bateau en plastique, il ne faut pas qu'il y ait le moindre choc. C'est plus facile à faire à deux, je pensais lui demander de m'aider. Mais si on peut se débrouiller tous les deux, ce sera beaucoup mieux. Tu as déjà conduit un tracteur ?
Oui, mon grand-père a un vieux poney.
Le nôtre, c'est pareil, mais en plus vieux. On ne sait même plus quelle marque c'est. Il y a une rampe de mise à l'eau à côté d'ici, mais elle est encombrée et mal fichue. Et ce matin, il y a un peu de clapot. Le mieux est que tu conduises le tracteur et je te guiderai. Je resterai sur le canot et je surveillerai que tout se passe bien. Tu n'auras qu'à faire ce que je te dirai. Ok ? Il fallut tout d'abord passer 2 sangles sous le canot en le protégeant avec de vieux chiffons. On le leva à l'aide d'un palan. Puis on enleva les tréteaux. Stéphane fit démarrer le tracteur, ce qui ne parut pas une mince affaire. À l'avant, pour être plus manœuvrant, il attela la remorque de mise à l'eau et vint la glisser sous le canot que l'on fit descendre au palan pour le poser dessus.
Stéphane conduisit le tracteur jusqu'à la fameuse rampe qui se trouvait à une centaine de mètres. Il manœuvra jusqu'à ce que les roues de la remorque touchent l'eau. Ensuite, il descendit et me dit « À toi de jouer. Essaie d'être le moins brusque possible avec les commandes pour ne pas trop donner d'à-coups. Descends doucement en première, je te ferai signe dès que l'eau sera au niveau de la ligne de flottaison. Tu t'arrêteras doucement. Je vérifierai qu'il n'y a pas de voie d'eau. Puis je détacherai le canot et je le dégagerai de la remorque. Tu pourras alors reculer pour remonter la remorque et tu iras m'attendre sur le quai à gauche pour m'aider à amarrer. » Le tracteur ressemblait bien à celui que j'avais déjà conduit chez mon grand-père. Stéphane me montra les commandes, la pédale d'embrayage, celle des freins, le levier des gaz et la position des vitesses. L'embrayage et l'accélérateur étaient peut-être un peu durs. Tout se passa bien, même si Stéphane eut un peu de mal pour dégager le canot de la remorque, en faisant très attention de ne pas lui faire la moindre rayure. Nous revînmes en tracteur à l'atelier. Il me laissa conduire, ajoutant même un compliment. « Nickel, la manœuvre ! Tu te débrouilles très bien sur un tracteur !» C'était la première fois qu'un garçon me faisait ce genre de compliment. Tout de même, cela me fit plaisir. « Allez, viens, me dit-il, je t'offre une douche à la maison. »« D'accord, je veux bien, mais ta copine ?»« D'abord, c'est chez moi, ensuite elle est au boulot à 7 heures, et enfin je l'emmerde. » Je fus plutôt surprise par son dernier argument, mais je n'osais pas poser de questions. Il me fit monter dans une camionnette déglinguée qu'il n'utilisait pas souvent, car il circulait plutôt à vélo. Au bout de 5 minutes, il nous arrêta devant une petite maison de village sur 2 niveaux qui ressemblait à une location de vacances. Je pus prendre tranquillement ma douche et Stéphane fit de même après moi. De retour à l'atelier, il commença à m'expliquer dans le détail le travail qui restait à faire sur les 2 bateaux devant nous. « Écoute, lui dis-je, je n'y connais pas grand-chose en construction de bateaux, j'ai un peu de mal à te suivre et je ne sais pas comment je pourrais t'aider. Mais ce que je peux te proposer, c'est de mettre de l'ordre dans ton bureau. Je me demande comment tu t'y retrouves. » « C'est simple, je ne m'y retrouve pas. » J'éclatais de rire. « Bon, par exemple, ton Parisien, tu lui as fait sa facture ?»« Non, il paiera ce qui était prévu sur le devis. » « Et si tu lui faisais une facture, ce serait mieux, non ?»« Je ne sais pas faire et ça ne m'intéresse pas. » Une nouvelle fois, je fus très surprise. Comment un patron peut-il ne pas s'intéresser aux factures ?« Si tu me trouves le devis, je peux sans doute écrire la facture correspondante. » « C'est une idée. Le devis doit encore se trouver sur la table. Je l'ai vu il y a 2 ou 3 jours. » Je fouillai les papiers sur la table et finis par repérer le fameux devis écrit à la main. Je trouvai dans un des cartons de l'armoire du papier en tête. Je m'installai et, repérant un silo en état de marche, je me mis à recopier le devis en mettant la date du jour, en écrivant « facture » à la place de devis et en inventant un numéro de facture car je n'avais aucune idée où le trouver. Avant de recopier le total hors taxe, j'allais trouver Stéphane dans l'atelier et lui demander « Tu n'as rien fait de plus que ce qui était prévu dans le devis ?»« Non. Ah si, 2 couples qu'il a fallu changer et le circuit électrique. Ce n'était pas grand-chose, mais j'ai dû remplacer tous les fils, c'était pourri. » « Eh bien, ça fait combien tout ça ?»«
Je ne sais pas, peut-être 50 € par couple et 100 € pour le câblage électrique. »
« Tu as mis combien de temps pour faire tout ça ?»«
Une bonne journée. »«
Alors tu n'es pas assez cher. À la maison, nous avons fait faire des devis pour des travaux. Le prix de l'heure des artisans, c'est autour de 50 €. »«
Bon, fais la facture comme tu veux. Du moment que le Parisien paie, ça ira. »«
Je ne te comprends pas. Tu es à ton compte et ça ne t'intéresse pas de faire rentrer de l'argent ?»
Stéphane rit de ma réplique et rit de plus belle en voyant mon étonnement. « Je ne suis pas à mon compte, je ne suis que l'ouvrier ici. »«
Alors tu as un patron ?»«
Bien sûr, mais il est à l'hôpital pour sa prostate, alors je fais ce que je peux pour faire tourner la boutique en attendant qu'il revienne. »«
Et ton patron, il s'en occupe de l'argent et des papiers ?»«
Il faut bien, mais ce n'est pas trop son truc non plus. » Je jouai donc à la secrétaire et refis cette facture en ajoutant les deux couples et le faisceau électrique à un prix que j'estimais plutôt largement. À 11 heures, le client parisien se présenta. Il fut ravi de voir que son bateau était prêt. Je pense qu'il aurait pu être très désagréable dans le cas contraire. Il alla voir le bateau et fit même un petit tour sur l'eau avec Stéphane. Satisfait, il vint ensuite au bureau pour le règlement. Je lui présentai moi-même la facture. Il fit le chèque immédiatement, sans faire la moindre remarque. Quand il me demanda d'acquitter la facture, je n'hésitai qu'une seconde, et me doutant que ce n'était pas Stéphane qui allait le faire, j'écrivis « Payez-le » par chèque numéro, et je signai comme si j'étais de la maison. L'homme partit en remerciant. Stéphane, tout en ayant l'air de s'en désintéresser, avait observé de loin comment je m'en sortais avec son client. Il revint vers moi dès que l'homme se fut éloigné. L'air tout joyeux, il prit le chèque des deux mains et me dit « C'est génial, il a signé. Tu es doué pour les affaires, toi. Moi, je n'aurais jamais osé lui présenter une facture comme ça. Tu fais un travail de qualité, ça se paie cher. Et ton client a trouvé ça tout à fait normal. Je ne sais pas ce que tu as fait comme étude, mais tu devrais te former un peu plus en gestion. » « À peu près rien. » « Comment ça, rien ? » ?»« Comme étude, je n'ai à peu près rien fait. J'ai passé un CAP de charpente, mais je n'ai eu que la pratique, c'est tout. »« C'est une histoire de volonté, pas de capacité, non ?»« Possible. La seule chose qui me passionne vraiment, c'est de faire des bateaux en bois. Bon, si on arrêtait de dire des conneries, je t'offre à déjeuner dans un petit resto à côté. Ça te va ?» Je n'en demandais pas tant. « Mais bien sûr, avec plaisir !» Tu verras, ce n'est pas gastronomique, mais c'est un peu notre cantine à nous tous qui travaillons sur les chantiers dans le coin. C'était effectivement un bar bien sympathique qui faisait restaurant le midi. Pour l'occasion, Stéphane se fit servir sur une petite table dans la cour, là où mangeaient les touristes quand il y en avait. La rumeur de la salle nous parvenait par la baie vitrée qui était grande ouverte, mais nous étions seuls à l'extérieur. Dès l'apparition des entrées, je pris la parole. « Stéphane, accepterais-tu de m'écouter pendant un moment, que je te raconte ce que je suis venu faire hier ? Peut-être pourras-tu m'aider. »« Vas-y, je t'écoute. » Je lui racontai donc dans le détail tout ce qui s'était passé et tout ce qui concernait Antoine depuis l'arrivée de la famille dans notre nouvelle maison. Tout en s'occupant sérieusement de son assiette, Stéphane m'écouta avec attention jusqu'au bout. Le dessert arrivait quand je terminais mon histoire. « Tu racontes bien, » conclut Stéphane. Sa remarque me fit rire, mais je tins à préciser. « Mais je ne suis pas comédienne, je ne te raconte pas une histoire pour que tu aies le plaisir de l'entendre. Je te raconte ça pour que tu m'aides à retrouver cet Antoine Monnier et que l'on sache s'il est parti de son plein gré ou contre son gré. »« Ok, j'ai bien compris, je vais essayer de t'aider. » Ce soir, il y a une réunion à la mairie. Toutes les entreprises du coin qui ont un rapport avec la mer y sont conviées. Ça me gonfle d'y aller, mais mon patron m'a demandé d'y faire un tour, voir ce qui s'y trame. Je ne connaîtrai pas tout le monde, mais je pourrais poser la question. S'il y a une boîte dans le coin qui s'appelle Monnier ou quelque chose dans ce genre, il y en a bien qui doivent la connaître. Alors ça, c'est sympa, vraiment sympa. Ça ne t'embête pas trop ? Si, bien sûr. « Mais je le ferai quand même, » répondit-il en riant. Je passai l'après-midi à faire ce que je pouvais pour ranger le bureau. Rassembler et trier par date les devis, les factures, les bons de livraison, tous les papiers qui traînaient. J'étais souvent obligée d'aller voir Stéphane à l'atelier pour lui demander à quoi correspondait tel plan, telle liste de matériel, telle adresse notée sur un bout de papier. Souvent, lui-même ne savait pas. Alors je me décidai à prendre un carton, à écrire dessus « à trier » et à mettre dedans tout ce que je ne savais pas où classer. Comment un comptable pouvait-il établir un bilan à partir de ce fouillis ? Stéphane partit assez tôt dans l'après-midi, car il voulait passer voir son patron à l'hôpital avant d'aller à la réunion à la mairie. En fin de journée, on commençait à y voir beaucoup plus clair dans le bureau. N'ayant rien à manger, je me passai encore une fois de dîner. Je fis un tour sur la grève et rentrai me coucher sur le canapé qui m'attendait. Stéphane, toujours matinal, me réveilla en arrivant. « Allez, debout, Emmanuel, on a du pain sur la planche, mais surtout, j'ai ton renseignement. »«
Ah oui? Alors ?»«
Martin et Monnier, S.A.R.L., est une boîte qui vend des moteurs de bateaux et des pièces mécaniques. C'est à une dizaine de kilomètres d'ici. »«
Et tu ne la connaissais pas ?»«
Je ne fais pas de mécanique. »«
Pourtant, le canot, hier, j'ai facturé une remise en état du moteur. »
C'est vrai, mais la mécanique, on la sous-traite à un gars qui a son atelier à 50 mètres d'ici.
Je comprends. Et tu sais si cette boîte de moteur, c'est bien Antoine Monnier?
Non, ça, je ne le sais pas, mais on pourra aller vérifier. En attendant, si on déjeunait. Comme la veille, Stéphane me proposa d'aller prendre une douche chez lui. J'acceptai avec plaisir. Comme la veille, nous fîmes le trajet en camionnette pour gagner du temps. Je pris ma douche tranquillement. J'étais en train de me rhabiller quand j'entendis une voiture s'arrêter brusquement dans la rue, juste devant. Une porte claqua et j'entendis des hurlements hystériques.
« Stéphane, tu te fous de moi? C'est qui cette allumeuse que tu amènes chez nous quand je suis au boulot ?»